Bonjour, je vous remercie de venir nous écouter pour ce samedi du livre donc à la bibliothèque Marguerite Audoux qui est consacré au livre de Mathieu Pot-Bonneville « Recommencer » qui est paru, qui vient de paraître il y a quelques mois chez Verdier. Je remercie Mathieu d'avoir accepté de venir en discuter avec nous et puis je remercie Isabelle Alfandari également pour sa présence et les questions qu'elle va poser. Je vous rappelle que cette activité, les samedis du livre, sont organisées par le Collège international de philosophie depuis de nombreuses années. Vous êtes peut-être des familiers des samedis, hein, et en particulier dans cette belle bibliothèque hein, qui a accueilli un certain nombre d'événements, et on s'y est retrouvé de nombreuses fois dans le passé. Hein. Je vais essayer. Non, ça va ? Alors, je vous dis quelques mots brièvement de présentation de nos intervenants, et puis je vais peut-être présenter l'ouvrage et commencer par des questions assez générales avant de passer la parole évidemment à Mathieu Pot-Bonneville pour qu'il réponde et à Isabelle Alfandari pour qu'elle puisse également intervenir et poser un certain nombre de questions sur l'ouvrage. Alors, Mathieu Pot-Bonneville est quelqu'un d'important pour le Collège international de philosophie. Il est philosophe, il a été directeur, enfin, il était président de l'Assemblée collégiale du Collège international. Il a été bien d'autres choses. Hein. Il est responsable du pôle idées et savoirs à l'Institut français. Il a été maître de conférence à l'École normale supérieure de Lyon. Il a été professeur de philosophie en classe préparatoire au lycée Jean Jaurès de Montreuil. Vous le connaissez sans doute aussi comme spécialiste de Michel Foucault et comme l'un des cofondateurs de la revue Vacarme. Je me limite à quelques titres de publication. Évidemment, Michel Foucault, L'inquiétude de l'histoire, au PUF en 2004, Amorce aux prairies ordinaires en 2006, D'après Foucault, donc après avec Philippe Artière aux prairies ordinaires en 2007, et puis bon, il y a des tas d'autres titres, et puis Recommencer en 2018, cette année, chez Verdier. Je vous donne également quelques éléments de présentation. Isabelle Alfandari, qui est également présidente de l'Assemblée collégiale du Collège international de philosophie, donc nous avons deux présidents de l'Assemblée collégiale, qui a été aussi présidente de l'Association française d'études américaines, qui est professeur de littérature américaine, mais qui est aussi spécialiste de psychanalyse, du rapport entre littérature et philosophie, de théorie critique. Je me limite à deux publications, le récent Derrida Lacan, L'écriture entre psychanalyse et déconstruction chez Hermann en 2016. Et puis, pour faire un petit peu de publicité pour le collège, il y a un numéro de dossier de Rue Descartes, qui est la revue du Collège international, qui est disponible sur le site de Rue Descartes, mais aussi sur Cairn, et qui est à paraître là tout début 2019 sur genre, performance et sexualité, et qu'Isabelle coordonne. Alors, je vais me permettre peut-être pour peut-être le public qui n'a pas encore lu l'ouvrage, de le présenter. Peut-être évidemment, il y a des effets de simplification qui sont de mon fait. Et puis, d'en tirer quelques questions, quelques pistes de réflexion dans un second temps. Alors, Recommencer, qui est structuré autour de sept chapitres, hein, reprise, renaissance, balbutiement, continuation, répétition, ressac, récidive, nous propose, et vous propose, une réflexion sur les paradoxes du recommencement, avec cette idée que le préfixe re ou ré du recommencer, hein, est souvent mal compris ou mal décrit quand on n'y voit que répétition, hein, comme dans redire, refaire. Il y a plutôt une forme d'insistance portée par le préfixe, on, qu'il s'agisse d'un individu ou d'un collectif, pourrait s'arrêter, mais non, on surmonte la tendance ou le désir d'arrêter. Et ce surmontement est coûteux, c'est pénible, il faut insister, il faut passer outre ce que décrit Mathieu, la déception, la frustration, la lassitude. Le recommencement est donc l'indice aussi d'un échec ou d'une défaite ou du moins d'une déconvenue, qui peut être politique, qui peut être scientifique, qui peut être amoureuse ou existentielle, même si j'aime pas beaucoup le mot. En tout cas, il y a de l'adversité à surmonter. Et il y faut tout l'entêtement, par exemple l'entêtement de Russell dans le premier chapitre, hein, que décrit le premier chapitre, pour cette relance qui pourrait ne pas avoir lieu. Et c'est souvent le cas, hein. J'ai pas envie de tout recommencer, j'ai pas le temps, pas le courage, pas le désir. Donc c'est cette décision de se reprendre, elle va pas du tout de soi, et le livre montre comment le recommencement ne se comprend qu'en rapport à ses empêchements affectifs, par rapport à ses embarras, par rapport même, on y reviendra peut-être, à un certain nombre de hantises. Le plan de l'analyse est celui de l'expérience, et l'expérience de celui qui tâche de recommencer, hein, qui se propose cette tâche. Je me permets une précaution ici, puisque est en jeu ce qui se fait et ce qui se vit. Et il ne s'agit pas du tout de la constitution d'une expérience, hein, qui immanquablement nous guiderait dans l'action. Ou plutôt, l'épreuve du recommencement fait expérimenter qu'aucun apprentissage par essai et erreur ne permet de se constituer une sorte de dot, hein, qui permettrait d'être toujours paré, prêt à faire face. L'épreuve du recommencement nous rappelle plutôt à ce que le livre appelle, et ce que j'aime beaucoup comme expression, notre impréparation, qu'aucune expérience accumulée n'annule. Ce qui fait que le recommencement n'est pas du tout, n'est garanti par nulle expérience de réussir, mais ouvre la possibilité d'un échec qui peut être plus complet encore que le précédent. Donc ces paradoxes du recommencement, ils sont liés à une thèse, je ne sais pas comment il faut la nommer, elle est ni ontologique ni anthropologique, mais une thèse qui pose le caractère indépassable de cette impréparation humaine, une sorte, je ne sais pas, pour moi qui suis freudienne, une sorte d'Hilflosigkeit, comme dit Freud, hein, du jeune enfant, une sorte de DZ, mais pour toute la vie. Hein. Et cette thématique de l'impréparation, elle m'est chère, c'est aussi une thématique qui est centrale, et en lisant, je trouvais le livre assez lyotardien, hein, qui est en fait la définition chez Lyotard du second inhumain qu'est l'enfance, une impréparation qui fait aussi l'accessibilité ou la passivité à l'événement. Alors, il n'y a pas d'expérience au sens traditionnel ou spéculatif, hein, mais il n'y a pas non plus de savoir de l'action qui permettrait de conduire notre action avec méthode ou d'en maîtriser les effets. Ce qui ne veut pas dire néanmoins, il y a un chapitre important à cet égard, qu'il soit impossible de prendre quelque appui face à l'incertitude de l'avenir ou qu'on soit tout à fait sans secours. Alors, qu'est-ce qui fait problème dans le recommencement ? Je l'ai laissé entendre déjà, il y a des descriptions multiples qui en sont données et qui le transfigurent en autre chose, en la répétition du même, en une redite. D'autres descriptions sont mères d'illusions quand on entend par recommencement, refondation, recommencement à zéro. Et les enjeux politiques, il n'est pas anodin pour nous aujourd'hui de parler du recommencement, les enjeux politiques de la question sont importants. S'il est illusoire de refonder, l'impression domine, et elle domine aujourd'hui de façon élective, elle domine dans la réalité que quelque chose est à refaire, quelque chose est à saisir, je ne sais pas. Alors nos tentatives de réitération nous confrontent à des dilemmes, dit le texte, ou à des paradoxes, et c'est ce qui est assez attachant aussi. D'abord, aucune des distinctions ne semble tout à fait aller de soi. Est-ce qu'il est sûr qu'on ne cesse jamais de débuter pour commencer quelque chose, hein, demande le chapitre 3. Est-ce qu'on ne risque pas de prendre un balbutiement, un bégaiement pour un commencement ? Mais recommencer quand même, c'est pas débuter, hein. Il y a un travail sur la distinction des deux. Et nous craignons toujours le faux départ, hein. Nous craignons de ne pas vraiment commencer, de ne pas initier quelque chose. ces premières difficultés, hein, de se dépêtrer de cette distinction entre la débuter et commencer, mais d'autre part, recommencer n'est pas continuer non plus. Il y a une scansion, il y a l'introduction d'une différence significative, hein, il faut en avoir fini avec quelque chose pour recommencer. Et c'est pourquoi le recommencement alimente d'un côté les fantasmes de surgissement pur, de nouveauté, de naissance, dans le langage d'Arendt. Ça a apporté toute une partie de la pensée française, je reprends l'expression de Lyotard à propos de Bataille, à choyer l'événement, hein, ou comme il est dit, page 29 dans le livre, à se faire une méditation et transfiguration de la catastrophe. C'est l'éloge du commencement pur, hein, qu'évoque le troisième chapitre. C'est le rêve, ou plutôt le fantasme, de la coupure radicale qui nous isolerait des répliques au sens sismologique du passé. Or, comme il est très bien montré, pour qu'il y ait recommencement, il faut bien un lien, un pont ou un enchaînement entre la fois précédente et la nouvelle. Il faut que ce soit encore moi, il faut que ce soit encore nous, et que, comme il est écrit, ces deux saisons s'inscrivent dans une même histoire. Ce avec quoi le commencement semble lutter, plus exactement, c'est l'insistance du continu, le continuel, ce qui continuellement nous revient, ce dont l'attente est inéluctable. Bien plus, le surmontement du continuel semble une condition du recommencement, et j'aurais des questions là-dessus. Ce qui nous inquiète alors, c'est que notre action ne soit malgré nous que la réplique des précédentes, qu'elle reste empêtrée dans les régularités anciennes. Ce qui recommence, celui qui recommence, désire secrètement à la fois remettre quelque chose sur le métier, désire que ce recommencement soit en quelque sorte un commencement, une correction apportée au commencement ancien ou précédent. C'est une nouvelle foi dont on espère que l'occurrence est en quelque sorte nouvelle ou renouvelée. Et le rapport du recommencement à la répétition est ainsi double. Ça qui est très intéressant, puisque celui qui recommence espère à la fois que quelque chose se conserve des tentatives antérieures, hein, que le passé n'a pas été tout à fait vain, et il est vain aussi de croire qu'on reparte à zéro, mais il espère en même temps, celui qui recommence, que sa nouvelle tentative n'est pas la répétition pure et simple, n'est pas le retour désespérant du même. Alors, à partir de ce très bref descriptif et qui dit mal l'écriture et la composition du texte, je voudrais soulever peut-être un certain nombre de questions qui sont peut-être un peu grossières. La première, elle porte sur la modalité de la relance ou de l'enchaînement, ou en tout cas, ce qui m'a beaucoup intéressée, comprendre le recommencement comme une relance ou comme un enchaînement. Et ce serait peut-être ma première interrogation. Pourquoi, et c'est quelque chose qui m'a frappé, pourquoi cet enchaînement que constitue le recommencement constitue-t-il, comme il est dit dans le texte, un impératif à affronter? Pourquoi est-ce qu'il faut enchaîner, et d'où vient cette injonction, ou plutôt cette nécessité? Il y a cette idée que le débutant, lui, n'enchaîne pas quand le commencement, et plus encore le recommencement, implique, exige, suppose un enchaînement. Donc ce serait peut-être ma première question. Pourquoi est-ce que il faut enchaîner? Pourquoi est-ce qu'il faut recommencer? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la possibilité de ne pas recommencer? Je comprends bien que le mode du recommencement, le mode de la relance soit contingent, lui, mais il y a la formation ou la formulation d'un impératif qui m'a interrogée, et ce serait peut-être la première interrogation générale, hein, sur l'ancrage de cet impératif. La deuxième question que j'ai lue à la lecture du texte, c'est une question qui touche au contexte ou à l'ambiance affective de cette question du recommencement. Et on voit qu'il y a une question de désir, il y a un désir ardent de recommencer, et il y a, comme tout désir, la dimension d'emprise de ce désir de recommencement le rend vulnérable à la suggestion. Le désir de recommencer est tel qu'on peut être prêt à se croire, à croire aveuglément qui promet la rupture, qui promet le nouveau départ, qui promet le changement de cap. Et on peut s'en remettre, comme il est analysé à la fin du livre, à des maîtres prétendus du recommencement, à des autorités qui prétendent savoir pour les autres. Et en même temps, ce désir de recommencer, qui est vulnérable, hein, il est quand même un peu atténué par la seconde modalité affective qui est quand même dans le texte l'angoisse et même à plusieurs reprises la hantise. Et il me semble que cette seconde modalité affective, elle prend le pas sur la première. Et je voudrais me permettre d'interroger l'auteur sur... alors affect, c'est pas tout à fait adéquat, hein, en tout cas dans un cadre psychanalytique, à propos de l'angoisse qui peut être... l'ambiance d'un autre affect qui n'est pas forcément angoissant mais qui a été refoulé, mais je m'interrogeais pourquoi est-ce que c'est si angoissant ou de quoi cette angoisse est le nom et le signe, hein. Et c'est vrai que peut-être j'ai une sorte d'idéalisme qui associait le recommencement peut-être à des choses plus haletantes, mais hein, cette modalité affective de l'angoisse m'a arrêtée et m'a interroger. Et puis, je voudrais me permettre de poser deux autres questions qui, sans doute, je peux les situer. Hein, elles viennent un peu aussi du plan de l'expérience, hein, qui est la mienne et qui est peut-être un petit peu différente. En lisant le texte, j'étais très sensible au dilemme du recommencement et je crois que on peut reconnaître un certain nombre de problèmes ou d'épreuves qu'on a soi-même traversées. Et puis en même temps, je voyais bien que philosophiquement, ou peut-être psychiquement, ou un peu névrotiquement, j'étais pas tout à fait dans le même lieu. Et on sent un peu l'étayage personnel du texte, je sais pas s'il faut dire le fond auto-analytique, et ça nous renvoie nous-mêmes aussi à d'autres ancrages. Et en tout cas, peut-être le lieu, moi, de mon expérience et de ma pensée, faisait que j'avais un peu de tendresse pour la thématique de la répétition et de la continuation qui semble être deux autres du recommencement. Et donc, ce sont un peu mes deux questions. Hein, la première qui concerne la question de la répétition et la question du plaisir pris à la répétition. C'est vrai qu'en lisant le texte, j'avais l'impression que le continuel ou la répétition ou même l'éternel retour, en tout cas toutes les figures nietzschéennes de la répétition étaient quand même un peu constituées en repoussoir, hein, jusqu'à la conception de l'histoire, hein, de la dernière lettre à Burckhardt du 6 janvier 89, puisque tu fais allusion, hein, au fond c'est moi qui suis tous les noms de l'histoire, hein, qui est dans le texte page 55, matrice de délire ou qui est une forme de régression. Et moi qui ai un peu de tendresse pour la répétition, je me disais, bon, peut-être il y a quand même une libération du côté de cette acceptation du choix le plus lourd, ou il y a une autre façon de donner de l'importance ou sa chance à la volonté. En tout cas, j'avais l'impression peut-être qu'il y avait des figures positives du destin ou du lot qui n'étaient pas tout à fait envisagées. Peut-être pour le dire plus trivialement encore, le livre... j'avais l'impression était un peu sévère à l'égard du plaisir qu'on peut prendre à la répétition. Tu parles d'endurance, hein, par rapport à la répétition, donc on pouvait prendre du plaisir à l'habitude ou au continuel ou à ce qui fait retour, à ce qui fait rite. Et ce plaisir, je comprends, hein, qu'il est passif ou il est subi, mais peut-être il n'est pas que délire ou que maladif. Et évidemment, je vois tous les exemples de compulsions de répétition que prend Freud, hein, tous les patients qui répètent au lieu de se remémorer, ou toutes les compulsions de répétition de ces personnes dont il dit que leurs trois maris successifs vont mourir, là, des choses catastrophiques. Mais moi, j'ai une sorte d'expérience de la répétition du même, où c'est aussi je sais pas, toute l'enfance, toute la part enfantine de la vie, le désir que le même revienne, le même jeu, le même rite, la même fête. Donc il y a une structure, hein, c'est peut-être la mienne, mais qui est pas seulement névrotique de la répétition, mais qui est aussi un peu vitale. Et il y a tout aussi une positivité de la seconde nature, qui est pas qu'une ossification ou que l'angoisse de voir le même revenir, mais qui est aussi peut-être une facilitation de l'action. Et alors, moi, j'ai peut-être un lieu un peu hegélien de la pensée, mais je pense toujours aux analyses hegéliennes de l'habitude, là où il dit, bah, quand même, quand on manque d'habitude, la longue prolongation de pensée, ça fait mal à la tête. Hein. Heureusement qu'il y a la répétition du même, comme ça on peut faire de la philosophie, hein, c'est formidable. Mais ce que, bon, peut-être mon sentiment, et c'est juste une impression, c'est que il y a toute une modalité de la répétition, de l'accommodement à la répétition, qui est un peu suspectée comme normative ou porteuse de normes, hein, celle que véhicule l'idiome dont on hérite dans le livre, comme si l'usage, enfin, comme si le fait d'être sujet au recommencement était juste normatif. Et moi, j'étais un peu... j'avais un peu de tendresse pour toute la dimension à la fois de maîtrise et de plaisir de la répétition qu'on voit chez l'enfant, d'abréaction du pénible, comme dit Freud, hein, et moi, j'étais prête parfois à valoriser ces figures de la répétition, même si on n'y recommence pas, effectivement. Et puis, j'ai une deuxième question sur la continuation, qui est un peu l'autre du recommencement, pour lequel peut-être j'ai aussi un peu de tendresse. Alors, c'est sans doute un idéalisme, mais en même temps, le livre très, très finement montre que pour recommencer, à la fois il faut cesser de continuer, hein, et le recommencement honnête, et en même temps, le recommencement honnête ou modeste accepte de renouer avec ces deux opposés. Hein, il faut, tu le dis bien, il faut accepter quand même d'être débutant, il faut accepter aussi de continuer. Celui qui humblement s'efforce de recommencer, il accepte en quelque façon d'être un continuateur. Tu analyses très bien, hein, le désir de continuer qui animait la lutte politique des militants d'ACT UP Paris dans les années 90. On retrouve le rapport ambivalent à la répétition. Hein, il faut répéter un petit peu sans répéter tout à fait. Mais moi, j'avais aussi peut-être une vision plus... peut-être plus affective des continuateurs. En lisant, je me disais qu'on pouvait souhaiter aussi, pas simplement recommencer, mais continuer des choses qui avaient été avortées dans la réalité. Et c'est sans doute, en tout cas, recommencer, ça a été, enfin, continuer, ça a été, c'est un lapsus, continuer, ça a été le projet de toute une partie de l'école de Francfort. Hein, continuer la révolution qui a été avortée par une dialectique. De la modernité, et c'était la devise de Marcuse, et c'est ce qui est inscrit sur sa tombe, hein, alors il y a toute une histoire rocambolesque de cette tombe, hein, à Berlin, hein, Weitermachen, ça veut dire continuer, c'est lui, il a voulu continuer, et il nous enjoint cette continuation. Bon, et moi, ça, c'est quelque chose qui politiquement, pour moi, aussi avait un sens, hein, être un continuateur de choses qui n'ont pas pu aboutir, ou de lignes qui sont fracturées dans la réalité et qu'on pourrait vouloir reprendre. Voilà, mais c'est des questions très, 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 très générales, mais qui ouvrent une discussion et que Isabelle précisera bien davantage dans la suite du débat. Et... Pardon pour leur généralité, puis merci beaucoup pour cette lecture.
Merci beaucoup, merci Claire, pour cette lecture précise, qui n'est pas du tout générale, qui est précise et qui pointe un certain nombre de caractéristiques et de partis pris du texte sur lesquels je vais avoir d'autant plus de mal à m'expliquer que ce sont des partis pris, et qui renvoient certainement à cette part un petit peu obscure de l'écriture, où on écrit depuis une place ou depuis une ambition ou un désir... avec lequel on tâche de s'expliquer, mais il faut qu'il reste un peu en arrière de la tête pour qu'on y parvienne vraiment. Y a évidemment dans ce texte une part, ce que tu appelais une auto-analyse, une, au fond, l'année dernière, écrire sur recommencer était aussi une manière pour moi de recommencer à écrire. Donc, d'un point de vue à la fois, disons, intime dans l'économie de l'existence et de la part que l'écriture peut y prendre, et puis de manière aussi... à trouver une espèce d'inflexion dans mon parcours, dans ma trajectoire philosophique. Pour rembobiner un petit peu le fil, moi je suis effectivement, j'ai en philosophie eu une très longue fréquentation avec l'œuvre de Michel Foucault, dont j'ai à certains moments eu l'impression de défricher la part philosophique. Alors, à une époque, on s'en occupait pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Foucault est un auteur abondamment analysé en philosophie, traité du point de vue académique. Donc, il y avait ce plaisir d'être un peu, sinon pionnier, du moins d'être un peu à la découverte d'une œuvre partiellement en jachère à l'époque, un peu après la mort de Foucault. Et puis, il s'est passé ce qui se passe dans ces cas-là, c'est-à-dire que, au bout d'un moment, j'en ai eu vraiment assez de jouer les commentateurs, pour le coup, même si je tâchais d'être un continuateur, avisé, c'est-à-dire de confronter l'œuvre de Foucault à des enjeux du présent. Il n'empêche que l'exercice du commentaire est, pour le coup, un exercice de répétition qui me pesait, qui me semblait de plus en plus inscrit dans une forme de normalité académique qui ne fabriquait plus grand chose pour moi en termes de surprise et de plaisir de réflexion. Alors j'ai fait ce qu'on fait dans ces cas-là, parfois on fait autre chose, j'ai écrit sur d'autres choses, des choses très différentes. Et puis, je me suis dit qu'une stratégie pourrait aussi consister à prélever chez Foucault un certain nombre de questions qu'il me semblait avoir décelées dans son œuvre et de les déplacer sur un tout autre terrain, de les faire travailler ces questions dans des modalités qui ne soient pas du tout celles du commentaire. Je crois qu'il est très peu, peut-être que je cite Foucault à un moment, mais enfin très peu dans ce livre.
Oui.
Et pour autant... Ce livre, il est nourri de deux questions que j'ai rencontrées dans cette fréquentation dont je parlais. Une première question concerne, disons, les rapports entre histoire et événement, la manière dont l'histoire peut être ponctuée, scandée, d'événements qui font la différence, qui introduisent une forme d'inflexion ou de bifurcation, de discontinuité ou de rupture dans le tissu continu de l'histoire. Donc, quel statut de la discontinuité dans une histoire qui, par ailleurs, est tout de même la continuité du temps ? Foucault demandait à la fin de sa vie, il disait que la question du philosophe devait être « Quelle différence aujourd'hui fait-il par rapport à hier ?» Et cette question de savoir comment faire la différence me semblait intéressante parce que chez Foucault, elle prend un tour problématique, c'est-à-dire qu'elle ne se contente pas d'affirmer l'irruption toujours possible, imminente de l'événement, mais elle interroge les moments où l'histoire semble prendre un autre tour, prendre un autre cours, et la manière dont on peut marquer ou scander cette continuité-là. Ça faisait une question... qui se situait sur un plan, disons, collectif ou politique. Comment, dans la continuité d'une histoire, marquer la place possible d'un événement et contribuer à le faire advenir. Et puis, il y avait une autre question, que j'ai trouvée aussi chez Foucault, qui était de contribuer à une forme de grammaire de l'action problématique. Chez le Foucault des dernières années, dans le souci de soi ou l'usage des plaisirs, Foucault mène une enquête que je trouve assez singulière et assez intéressante lorsqu'il explique que l'éthique consiste à inventer des façons de faire, élaborer des manières de se conduire, lorsque on est dans une position de dilemme ou dans une position de difficulté structurelle quand on est embêté. Voilà. En gros, chez Foucault, l'éthique, c'est l'histoire des façons de faire dans les lieux ou au point d'embêtement de la culture. Voilà. Dans la Grèce ancienne, comment avoir une histoire d'amour homoérotique alors même que le garçon, le jeune homme est un objet d'amour valorisé, mais qu'avoir été jeune homme aimé d'un homme plus âgé n'est pas très valorisant lorsqu'on devient à son tour un homme mûr. Et ce genre de difficulté-là. La relation entre homme et garçon dans la Grèce ancienne, c'est cette espèce de menuet qui se joue autour d'une contradiction entre le caractère désirable du garçon et le caractère un peu honteux d'avoir été désiré. Alors, on est très très loin de mon affaire, mais il se trouve que par ailleurs, ce livre est paru chez Verdier parce que Verdier a publié ces derniers temps quelques textes qui me semblaient faire signe à cette question-là. Je pense au livre de Patrick Boucheron et Mathieu Riboulet qui s'appelle « Prendre date ». Je pense au livre de Marielle Massé qui s'appelle « Sidérer, considérer ». Tous ces verbes à l'infinitif, hein, « recommencer », c'est un verbe à l'infinitif aussi, qui essaie de d'écrire une grammaire de l'action au présent. Voilà, de réviser un certain nombre de verbes d'action dont on sent bien qu'ils ont en commun de ne pas faire le fier. Prendre date, sidérer, considérer, recommencer, on est quand même dans une grammaire de la prudence, d'une hardiesse prudente, je ne sais pas comment dire. Comment y arriver en sachant que c'est difficile. Voilà, donc ma question, pardon pour ces détours, mais la question que j'essaie de poser dans ce livre, qu'est-ce que c'est que recommencer et à quelles difficultés on s'affronte en tâchant de s'y remettre, cette question-là, elle a été philosophiquement nourrie d'une réflexion sur l'histoire qui est vraiment très en filigrane dans le livre. Le livre est plutôt sur le plan existentiel et éthique et d'une réflexion sur la grammaire des actions problématiques. Or, recommencer est une action structurellement problématique puisque le même mot, c'est l'avantage du français, mais je ne crois pas que ce soit simplement une idiosyncrasie, le même mot désigne le renouveau et la répétition. Le même mot de recommencement désigne la nouvelle aube et le fait que ça repart, que c'est reparti. Et cette ambiguïté-là, ou cette tension-là, me semble dire de façon très précise, une difficulté d'existence à laquelle j'ai tâché de me consacrer. C'est pour ça que le livre s'ouvre par deux exergues, l'une de Nietzsche qui dit « nous redevenons limpides », qui est ce rêve, cette envie de vie neuve, enfin c'est la Vita Nova aussi de Dante, c'est le rêve de Barthes d'un livre sur la Vita Nova, c'est toute cette ambition de voir enfin la page redevenir blanche ou de se trouver lavée du passé. Puis l'autre citation que j'ai mise en vis-à-vis, c'est celle de Twin Peaks de David Lynch avec le géant qui dit « It is happening again » lorsqu'à nouveau un meurtre revient. Et là, c'est la figure de la répétition au sens vraiment de la hantise, au sens du fantôme, au sens du retour du fantôme. Et cette tension-là, cette extrême contradiction au fond, me semble, encore une fois, dessiner un volume à l'intérieur duquel beaucoup de nos actions se situent. Tout le problème étant de savoir comment on s'y prend pour tenir compte à la fois du fait qu'il n'y a pas de recommencement, de désir de recommencer sans désir d'être à neuf, de remettre les choses à neuf, et qu'il n'y a pas de recommencement sans savoir de ce que les choses ne sont pas neuves, que ce n'est pas la première fois. Lorsqu'on dit une nouvelle fois, on dit très exactement une fois nouvelle et une fois qui n'est pas nouvelle. C'est neuf et ça ne l'est pas. Alors, ça m'amène à la série de questions que tu posais. La première étant, pourquoi, au fond, faut-il recommencer pourquoi faut-il continuer? Qu'est-ce qui nous porte de ce côté? La réponse la plus simple que j'aurais envie de faire, c'est, elle renvoie hein, au conatus spinoziste, voilà, ce que Pascal nommait la force de la vie, c'est-à-dire à cet élan, à cette poussée qui, à chaque instant, nous porte en avant. Cette poussée dont on va peut-être un peu trop vite à propos de laquelle on va un peu trop vite lorsqu'on la considère simplement comme une forme d'élan enthousiasmant et positif. Elle l'est bien sûr, mais pas seulement. C'est sans doute la limite du spinozisme naïf que de lire dans le Conatus une forme de positivité fondamentale de l'élan de vie. Il y a une citation, un passage que j'ai jamais retrouvé. Il faudrait faire une encyclopédie des passages qu'on ne retrouve jamais dans les livres. Il y en a beaucoup. Peut-être on les a rêvés, mais celui-ci m'importe. C'est, je crois, chez Merleau-Ponty. Lorsque Merleau-Ponty, pour illustrer précisément cette continuation de l'existence, prend l'exemple de celui qui suit un enterrement et dont l'œil s'accroche à un reflet du gravier. Il dit au fond. Et d'un coup se met à vaguer, à divaguer, à penser à autre chose. Merleau-Ponty en tire, dans ce texte que je ne vous citerai pas, donc, en tire, je trouve, une belle méditation sur la manière dont la pensée, quelque arrêtée qu'elle puisse être par le deuil, l'échec, la défaite, le désastre, etc., la pensée doit se porter vers le coup d'après, ne peut pas ne pas le faire. Mais ça n'est pas toujours si enthousiasmant de sentir cela, de sentir que de nouveau on s'échappe et que même cette chose si grave qui devait arrêter notre existence ne l'a pas arrêtée, que ça continue. Ça va m'amener à la question de la continuation dans un instant. Voilà, donc ça, la première réponse serait là. C'est une réponse que je trouve... importante parce qu'elle dégonfle les fantasmes de, tu en as parlé, de coupure radicale, aussi bien, de coupure radicale entre aujourd'hui et hier. J'ai écrit aussi ce livre à un moment où la politique française bruissait de la métaphore du nouveau monde. J'ai toujours eu envie de rappeler que dans le Nouveau Monde, il y avait des Indiens qu'on a exterminés à l'occasion, et que le Nouveau Monde ne l'était que pour certains. Et il y a un très beau texte d'Annie Ernaux qui est paru il y a quelques jours, que j'ai lu il y a quelques jours, j'ai lu passer sur Internet, où elle dit « il n'y a pas de Nouveau Monde, en fait, tout continue toujours ». Et cette continuité, elle la rappelle, elle dit d'ailleurs « les classes populaires en ont davantage conscience que les autres ». Cette continuité, elle la rappelle à la fois comme une chance, comme une fatalité et comme une marque de la différence entre la perspective des faibles et la perspective des puissants. Les puissants croient que quand ils arrivent, ça change. Les faibles savent que ça continue, que ça va continuer. Alors que ça, c'est sur la première question. Ce qui m'intéresse, c'est cet élan compliqué qui nous porte à chercher autre chose, à lancer autre chose, dans une lancée qui se sait lourde de ce qu'elle a traversé. Ce que j'appelle à un moment dans le livre « dire un mot pour les laborieux ». Alors, ça, de ce fait, on voit assez bien pourquoi... Pourquoi la question de l'angoisse peut revenir à cette occasion. Là aussi, ma méthode a consisté à être un peu foucaldien, c'est-à-dire de toujours préférer la peur à l'angoisse. Quand j'avais travaillé sur... dans la conclusion de mon premier livre que j'ai consacré à Foucault, qui s'appelle « L'inquiétude de l'histoire », j'essaie de travailler précisément sur ce que Foucault appelle l'inquiétude, qui est un terme qui revient souvent chez lui. Le sol s'inquiète sous nos pas. Le livre devait s'appeler au départ Inquiétude des sols. Ça s'appelait l'inquiétude de l'histoire, parce que c'était moins métaphorique, j'imagine, pour l'éditeur. Il m'a semblé que cette pensée de l'inquiétude, elle se tenait au fond sur la ligne de crête entre une pensée de l'angoisse, dans sa dimension d'évidement existentiel de tout objet de peur déterminé, pour ne laisser que le rien, devant quoi de l'angoisse, c'est l'angoisse elle-même, dit Heidegger. Sur la ligne de crête, donc, entre une philosophie de l'angoisse et une philosophie, qui est beaucoup moins repérée que l'existentialisme, il faudrait retracer les linéaments, mais de la peur, des peurs, qui consiste toujours à dire, attention, ce que vous croyez être une angoisse profonde, absolue et pour le coup philosophique, c'est peut-être bien une peur qui a des racines précises, analysables, et plutôt que de vous angoisser en général, vous feriez mieux de vous demander ce qui est dangereux. C'est une phrase de Foucault, tout est dangereux. De la même manière ici, dans ce petit livre, j'ai essayé de rapporter l'angoisse qui saisit celui qui recommence, l'angoisse de la page blanche en gros, à une série de peurs bien précises, bien déterminées, qui ont une figure, qui du coup sont rassurantes, parce que c'est mieux qu'on a peur à une figure, on sait à qui on a affaire. Et ces figures de la peur, à la fois au sens de la physionomie, au sens de la figure de style, c'est pour ça que je suis allé les chercher chez des écrivains. Parce qu'il m'a semblé que là où les philosophes cèdent parfois à une généralisation ou une essentialisation de l'angoisse, les écrivains s'expliquent plus fermement, plus précisément avec leur peur. Et c'est la peur de débuter, qu'on trouve effectivement chez Pavese, c'est la peur de continuer, qu'on trouve chez Beckett, je vais en dire un mot dans un instant. Mais voilà, ceci pour te répondre. À mon sens, il n'y a pas d'ambition de recommencement sans angoisse. Cette angoisse est, je l'admets bien volontiers, comment tu disais, l'ambiance d'un autre affect qui a été refoulé. J'irai voir plus tard. En tout cas, méthodiquement, du point de vue de la méthode, j'ai tâché de rapporter cette angoisse à une série de difficultés éthiques, en gros, de dilemmes éthiques. Et ces dilemmes-là, les écrivains nous en apprennent finalement des choses intéressantes. Le plaisir de la répétition, c'est ta troisième question. J'adore la répétition. Je mange toujours la même chose. c'est quelque chose à quoi... Il y a un plaisir de l'habitude même pas un confort, c'est peu dire, une manière dont l'habitude prend soin de soi, qui me paraît tout à fait importante. Ça fait partie des choses dont je n'ai pas parlé. Parce que ce livre, et c'est pour ça qu'il est tout petit aussi, c'est qu'il s'est aussi écrit en retirant un certain nombre de pièces dont j'ai décidé de ne pas m'occuper. Par exemple, j'ai méthodiquement contourné de très grosses références. Il n'est pas question d'éternel retour. Chez Nietzsche, c'est quand même gonflé pour un livre sur le recommencement. Il n'est pas question de différence et répétition, de Deleuze, qui est quand même, pour le coup, est un gros livre.
C'est cité quand même.
C'est cité. je crois que c'est dans une note. J'ai pas pu quand même ne pas le citer. Mais ce livre s'est faufilé, c'est pour ça qu'il est mince, puisqu'il a fallu qu'il se faufile entre des références beaucoup plus grosses que lui. Et de la même façon, je ne me suis pas occupé de la répétition dans son sens constitutif en fait, de l'existence. J'ai essayé de m'en occuper ailleurs. J'ai travaillé sur le cinéma ces derniers temps, et le cinéma et la répétition, c'est intéressant, parce que là, il y a des figures très positives, le fréquentatif, en gros. La manière dont le cinéma s'occupe du fréquentatif, c'est très chouette. Mais je n'en ai pas parlé là, sinon pour écarter tu en as parlé au début, j'y reviens un instant, pour écarter une hypothèse, qui est l'hypothèse de l'expérience. Qui est l'hypothèse que selon laquelle l'habitude nous permettrait peu à peu d'acquérir de l'expérience et d'y parvenir de plus en plus. D'y arriver de mieux en mieux. Qui est évidemment une immense... un immense schéma intellectuel explicatif qui est très ancien. Vous me dites bon, je suis trop bavard, hein. Mais je me souviens d'un cours de Jacques Brunswick, grand philosophe, grand spécialiste de la philosophie antique, sur le mythe de Protagoras de Platon. Il expliquait que le mythe de Protagoras de Platon, c'est une manière de se moquer de tous les physiciens pré-socratiques qui expliquaient que peu à peu, l'être humain a inventé le feu. Peu à peu, il est arrivé à domestiquer les animaux. Et dans le mythe de Protagoras, le texte se moque de cette idée parce qu'il dit, en gros, si les êtres humains sont fait bouffer une fois par les animaux, comment est-ce qu'ils vont pouvoir revenir pour les domestiquer? En gros, cette hypothèse n'explique rien du tout parce qu'elle suppose toujours que... Bon, déjà, on a survécu à la première fois pour affronter la seconde. C'est très difficile d'apprendre peu à peu à ne pas sauter du 8e étage, ou à ne pas mettre les doigts dans la prise de courant. Donc le peu à peu n'explique rien. Ça, je trouve que c'est intéressant, philosophiquement, de dire qu'est-ce qui se passe si on commence par écarter cette facilité empirique, empiriste, de l'explication par l'expérience. Qu'est-ce qu'on voit? Et tous les auteurs que j'ai cités, à commencer par Beckett, et son fail better, hein, échoue mieux, sont des auteurs qui déconstruisent cette idée d'un recommencement qui serait augmentation, addition d'expériences accumulées. De la même manière, alors, sur ta toute dernière question à propos de la continuation et des continuateurs. Moi, je suis peu charitable avec les continuateurs. Je n'avais pas le sentiment d'être si peu charitable que ça. Parce que dans le chapitre, petit chapitre qui est consacré à la question de l'histoire, avec la référence à Hans Blumenberg, ce que je trouve intéressant chez Blumenberg, c'est qu'il y a une vraie pensée des continuateurs historiques. Blumenberg, dans un petit texte, explique que il n'y a pas d'action historique qui ne se réfère à une action passée, qui ne soit une manière de remettre en jeu, de mimer une action du passé, et que c'est une ressource absolument fondamentale des acteurs historiques que de pouvoir comme ça, rejouer. Ouais. Et en même temps, lorsqu'il dit fait cette théorie, cette petite théorie de poche, l'exemple qu'il a en vue, c'est Hitler. C'est évidemment un exemple un peu problématique. Et la manière dont Hitler pouvait se référer à Frédéric II, à Alexandre le Grand. C'est-à-dire qu'au fond, la remise en jeu de la figure historique, on l'a vu ces derniers temps autour de la jacquerie, les sans-culottes, cette manière de convoquer les exemples du passé pour essayer de penser l'événement en cours, Blumenberg dit à la fois que c'est absolument indispensable et que c'est potentiellement très dangereux. Et du coup, c'est un peu là que tout le bouquin se situe, et c'est aussi là que ma réflexion sur la continuation se situe.
Merci beaucoup pour ta réponse. Je passe la parole à Isabelle Alfandari.
Merci. Merci Claire et merci Mathieu pour ce livre qui m'a vraiment beaucoup intéressée, beaucoup passionnée. Alors, il y a beaucoup de choses que je m'apprêtais à dire que je vais dire autrement ou ne pas dire. Je veux dire, pour commencer, simplement que j'ai trouvé ce livre très original pour plusieurs raisons que je vais essayer de dire là. Tu as répondu par avance à une certaine question que j'aurais pu poser qui avait trait à un certain nombre de références obligées. Et au fond, ce livre me paraît très original aussi parce qu'il ne s'oblige pas, qu'il ne s'embarrasse pas d'un certain nombre de références philosophiques qu'on attendrait. et qu'en même temps, de fait, il se faufile. Il file un certain nombre de métaphores, il file aussi, il file aussi avec la langue, sur le, comment dire, à l'horizon de la langue, et je vais parler aussi du statut de l'écriture dans ce livre, parce qu'il me paraît tout à fait singulier, disons, et il se faufile entre les références obligées et entre un certain nombre d'écueils. Et au fond, c'est peut-être ça la figure de recommencer, ou la question de recommencer, c'est comment pouvoir recommencer. Moi, j'ai été très touchée aussi, puisque Claire a utilisé ce mot tout à l'heure dans son intervention. Je trouve ce livre très touchant aussi parce que, en lisant cet infinitif, je me suis dit que c'était aussi, et avant même d'ouvrir le livre, que c'était aussi un livre sur la possibilité de recommencer, que c'était un livre de mi-vie, si j'ose dire. Peut-être ça n'est pas complètement vrai pour toi, mais en tout cas, depuis mon site, disons, personnel, c'est comme ça que je l'ai entendu aussi. C'est un livre qui envisage la possibilité de recommencer. En tout cas, cet infinitif, c'est comme ça que je l'entendais. Et de fait, les épigraphes renvoient à la double valence ou à la double valeur de l'infinitif, et à l'une des valeurs à laquelle peut-être moi, très optimiste, je ne pensais pas, à savoir que il n'y a pas seulement « je recommence », il y a aussi la possibilité que ça recommence. Et que si ça recommence, c'est peut-être la fin de la possibilité que je recommence. Donc je pense que le livre est vraiment pris dans cette tension, et c'est vrai qu'en même temps, il se lit aussi comme un livre de la Vita Nova. Tu en as parlé, c'est tout de même une figure que tu ne travailles pas, ou un genre de trope que tu ne travailles pas de manière massive, mais je pense que c'est toute la subtilité du livre qui, comme tu dis, se faufile, c'est-à-dire ne l'aborde pas frontalement, cette question-là, et en même temps, il me semble qu'elle est tout le temps là. Comment continuer à vivre ? Peut-être que c'est aussi ça la question de recommencer. Comment continuer à vivre en éprouvant le désir de la vie, quoi. En se relançant pour soi-même, en échappant au « ça recommence » de la répétition mortifère. Et donc, moi, je suis frappée par l'originalité, disons, de la manière, c'est-à-dire à la fois d'une méthode qui fait de ce livre aussi un genre de petit traité de métaphysique appliquée ou d'anthropologie appliquée, parce que peut-être j'en lirai une page, il y a quand même des pages qui sont vraiment philosophiques, enfin, je veux dire, au sens le plus noble de l'exercice et du terme. Mais c'est aussi un livre, comment dire, de vie appliquée ou de vie possible, et qui propose à son lecteur vraiment la possibilité de penser la suite pour soi. Et ça, je trouve que c'est remarquablement fait, parce que c'est fait avec, si j'ose dire, grand style. Il me semble que c'est aussi un livre qui est pensé contre l'épuisement, enfin, comme la possibilité d'ériger, disons, le désir contre l'épuisement, contre la déprime ambiante, peut-être aussi contre une certaine mélancolie qui ne dit pas son nom. Moi, c'était une figure que j'interrogerais aussi. Enfin, peut-être l'une des questions, je ne sais pas si je sais la formuler simplement, mais tout de même, il a été question de l'affect d'angoisse. Moi, je m'interrogerais sur le statut de la mélancolie dans son rapport au recommencement. Et je sens quand même aussi, parce que j'ai été sensible à la référence à Edgar Allan Poe et au poème The Raven, et à la figure de Nevermore, qui est vraiment une figure de... comment dire, du deuil et de l'impossibilité d'un recommencement, alors même qu'elle est répétée, puisque le poème répète l'adverbe « nevermore, nevermore », qui a d'ailleurs donné lieu à la reprise berlinienne que l'on sait. Mais donc voilà, quid du rapport entre mélancolie et recommencement ? Est-ce qu'il n'y a pas, au fond, est-ce que ton livre ne suggère pas qu'il y a quelque chose comme une espèce de lien vraiment très inséparable ou de connivence et vraiment très intime entre, au fond, une dimension mélancolique, un affect mélancolique et le désir de recommencer ? En tout cas, moi, j'entends le paradoxe du recommencement, son articulation paradoxale aussi, aussi liée au tropisme de la mélancolie. Et c'est pour ça que je trouve que disons l'image de la Vita Nova, ou en tout cas son image littéraire, enfin ce trope de la Vita Nova, de la possibilité de la nouvelle vie, à laquelle la littérature, disons, a donné forme depuis Dante, avec un certain nombre d'autres figures dont tu as parlé, notamment celle de Barthes, qui pense la possibilité de la nouvelle vie à partir de Proust, mais aussi, puisque tu parlais de Barthes, la possibilité de la nouvelle vie chez Michelet, dont parle Barthes, et celle, bien sûr, de Chateaubriand, qui attendait la mort, se demandant si la mort ne l'avait pas oublié. Et qui continuait de recommencer chaque jour. Donc je suis quand même très frappée par cette dimension de Vita Nova, qui n'est pas forcément mise en avant, mais que je trouve très forte, aussi parce que, voilà, j'ai pensé que ce livre était aussi un livre du milieu de la vie, et que la question de la Vita Nova, c'est la question de la possibilité de recommencer la vie, pas à zéro, mais que la vie se relance, au fond, soit possibilité d'une relance. Alors, moi, peut-être, aussi pour un peu, essayer d'explorer des parties qui n'ont pas été encore peut-être abordées, je voudrais tout de même m'intéresser à ce que tu as dit dans une des réponses, enfin à un des aspects que tu as mentionné déjà dans une des réponses à Claire, et qui concerne la place et le statut de la littérature et de la langue, et je dirais même de l'écriture, dans ce livre. Parce que si le livre évite certaines références obligées, philosophique, tu as parlé notamment de référence à Nietzsche, et sans doute bien d'autres, il y a tout de même une chose qui est frappante pour un livre de philosophe, c'est qu'il prend appui, il prend sa source, il revient, il fait un certain nombre de références littéraires qui te sont très personnelles, et qui comme ça s'égrènent tout au long du livre. Je pense notamment à la référence à la première, qui m'a beaucoup frappée, dans le premier chapitre, la citation d'Alice au Pays des Merveilles, et notamment, qui a beaucoup servi visiblement à Russell, qu'il cite, dans cette « Thé chez les fous », qui est un moment très intéressant d'Alice au Pays des Merveilles, où Russell cite la philosophie du lièvre de Mars, je cite, « Ils adoptèrent la solution du lièvre de Mars, j'en ai assez, changeons de sujet ». Et en fait, grâce à toi, je suis retournée lire la partie chez les fous, enfin la Mad Tea Party, donc le thé chez les fous, qui au fond est très occupée à la question du recommencement, qui est bien sûr très occupée, bon, c'est la question d'Alice, hein, comment devenir au fond, comment devenir entre continuité et discontinuité. C'est la question qu'elle pose à tous les personnages qu'elle rencontre dans le premier livre. Et dans la partie chez les fous, là, dans le thé chez les fous, la question du rapport entre continuité et discontinuité, et notamment la question de l'ennui qu'on éprouve à parler ensemble, à ne pouvoir faire que ça, parler ensemble, comment recommencer dans la parole. Sans cesse, Alice est occupée à être soit à couper la parole aux autres personnages, notamment au chapelier fou, soit on lui coupe la parole. Et la question qui revient tout le temps, avec ce dodo qui dort, vous savez, c'est la question du temps, de la temporalité. Et notamment du passage où Alice, je ne sais pas si je vais le retrouver, mais enfin, il me semble que ça, quand même, que Russell fasse référence à ce texte, cet intertexte tellement canonique, disons, pour les enfants anglais. Tout le monde a lu ça dans sa toute petite enfance. Hein. C'est un texte d'enfance, c'est une lecture d'enfance, hein, dans tous les sens du terme, pour un anglophone. Et notamment la Mad Tea Party, parce qu'un certain nombre d'énoncés de ce moment sont très célèbres. Et il y a notamment le passage que je trouve très drôle. Enfin, il y a toute une longue méditation sur le temps, en fait, entre Alice et les différents personnages. Le temps n'admet pas... Ah, dit le chapelier, voilà qui explique tout. Le temps n'admet pas qu'on veuille le marquer comme le bétail, alors que si seulement vous étiez resté en bon terme avec lui, il ferait faire au pendule tout ce que vous voudriez, ou presque. Par exemple, à supposer qu'il est 9h du matin, l'heure de commencer votre travail d'écolière, vous n'auriez qu'un mot à dire au temps, et l'aiguille ferait le tour du cadran en un clin d'œil, Voilà qu'il serait déjà heure et demie, l'heure de déjeuner. Je voudrais bien que cela soit vrai. Bon, si vous avez l'occasion de relire ce texte, il est tout à fait fascinant à cet égard. Et donc, il me semble que commencer par la citation d'Alice au Pays des Merveilles, dans ce premier moment, avec la possibilité qu'il soit possible de changer de sujet, dans toutes les acceptions du terme, d'ailleurs peut-être en français, hein, de couper radicalement, dont tu dis que ça n'est pas possible à la fois, ça m'a paru tout à fait intéressant. D'autant que j'y pensais en lisant et en t'écoutant là à l'instant, en français, il y a tout de même, entre second et deuxième, une différence notable, hein, puisque la seconde fois, ça veut dire c'est qu'il n'y en a pas de troisième. Alors qu'en français, on maintient la possibilité d'une deuxième fois qui ouvre sur l'infinité multiple des possibles. Et ça, c'est intéressant parce qu'il me semble que ton recommencer a à voir avec la deuxième fois, la possibilité d'une deuxième fois qui se démultiplie. Et que c'est vraiment ça ton objet. Et que c'est peut-être aussi, me disais-je en essayant de préparer un peu pour aujourd'hui, peut-être pour ça que tu ne travailles pas tant la figure de la Vita Nova, qui serait plutôt, enfin je sais pas, c'est une question en tout cas, plutôt du côté de la deuxième, de la seconde que de la deuxième fois. Mais il me semble que la question du temps est quand même tout à fait essentielle à ce que tu fais, d'autant qu'il s'agit au fond de recommencer. C'est pour ça que cette insistance sur ce que j'appellerais un livre de mi-vie, c'est un peu étrange de dire ça, mais la possibilité de pouvoir se relancer dans le temps et de savoir le temps qu'il reste ou de ne rien savoir du temps qu'il reste me semblait aussi, lisible presque entre les lignes. Mais peut-être que je me trompe, et en tout cas c'est peut-être ça le sens de la question qui a trait à la mélancolie. Alors, je voudrais aussi dire quelque chose quand même de cet autre passage où tu cites Flaubert, et notamment à la fin, dans Bouvard et Pécuchet, dont tu fais une analyse absolument superbe, et cette espèce d'écriture infinie d'un encyclopédisme écervelé et échevelé, complètement somnambule, hein, dont tu montres d'ailleurs qu'il est, si j'ose dire... fatale à Flaubert, puisque c'est là-dessus que finit ou que refuse de finir la vie de Flaubert, ou que Flaubert refuse de finir sa vie. C'est le passage, je ne sais pas si je le retrouve, très 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 drôle et très fou. Et là, il y a vraiment une analyse très très serrée du texte flaubertien. Et voilà. Et je me demandais aussi en te lisant pourquoi finir par Flaubert. Sachant qu'une des autres, me semble-t-il, scansions littéraires du livre est la référence et l'analyse du journal de César et Pavese, et notamment la place qu'il fait à ce qu'il appelle un sentiment vital pour l'artiste. Tu cites « Une seule chose parmi beaucoup d'autres me semble insupportable pour l'artiste, ne plus se sentir au début. » Et il me semble, au fond, à te lire que la question... de recommencer a beaucoup à voir finalement avec la question de la création artistique ou en tout cas avec la question de l'écriture, comme si, et peut-être que je me trompe, mais à te lire je me suis demandé si recommencer, c'est-à-dire continuer à vivre selon des modalités qui pourraient être nouvelles, ça n'est pas, et qui serait aussi la question, comment dire, de chacun, la question ordinaire, si j'ose dire, ça n'est pas aussi touché de très près à ce que serait l'activité d'un artiste, ou ce que serait la question de la création artistique. Parce qu'il me semble qu'il y a chez toi souvent, alors que se pose la question finalement de recommencer, je ne sais pas comment dire, dans le sens le plus gnomique du terme, qu'émerge presque au même moment, au fond, soit un intertexte littéraire, soit une question qui relève de la possibilité de l'écriture ou de continuer à écrire. Et je suis notamment frappée par la place que tu donnes à Beckett, bien sûr, dans ton texte. Et aux intertextes beckettiens, tu as parlé de Failbatter, des impératifs beckettiens, et de l'intérêt de Beckett, de la manière qu'il a d'examiner, au fond, la possibilité de continuer. C'est vrai dans les intertextes que tu cites, c'est vrai aussi dans En attendant Godot, qui est au fond une pièce du recommencement impossible, hein, où l'attente et l'impossibilité du recommencement, puisque la pièce est divisée en deux parties, et finalement la seule différence entre la première et la seconde, c'est que les, les feuilles sont tombées, quoi. Les feuilles de l'arbre sont tombées et on en est strictement au même point. On est sans cesse ramené au point d'avant. C'est un peu comme dans la folle d'activité. La seule manière de changer, vous savez quelle est cette stratégie pour Alice, enfin pour les compagnons d'Alice, c'est de se déplacer autour de la table. Alors là, ça change. On recommence. On recommence la conversation en se mobilisant, en se déplaçant dans l'espace. Donc voilà, peut-être que ce qui m'interroge le plus à te lire, c'est d'essayer de comprendre la relation, disons, entre ce que j'appellerais alors tu n'aimes pas le mot d'angoisse, mais l'inquiétude, disons, créatrice, l'inquiétude de l'écrivain, et au regard de la question du recommencement. Et l'expérience du recommencement, y compris dans son acception la plus anthropologiquement partagée. Comme si quelque chose là, autour de recommencer, du souci vital de recommencer, ce que Pavese appelle un sentiment vital pour l'artiste, était aussi un sentiment vital peut-être pour l'auteur du livre, un sentiment vital pour chacun. Que sans cet horizon-là, de la possibilité d'un recommencement, quelque chose là était presque impossible. Alors, voilà, ça c'est un aspect donc pour donner à entendre la part, disons, des lectures de la littérature que tu convoques. Et puis je voudrais peut-être, pour finir, envisager une autre problématique qui m'a frappée, et peut-être insister sur un intertexte, disons, pour le coup, qui n'est pas littéraire. Peut-être un des passages obligés dont tu ne fais rien et dont je voudrais savoir tout de même ce que tu en penses. Et cet autre passage obligé, enfin obligé ou pas obligé, autour du recommencement, c'est l'intertexte freudien. Alors, je ne dis pas que la psychanalyse n'est pas mobilisée. D'ailleurs, je la trouve mobilisée de manière extrêmement subtile, très souvent tout au long de ta réflexion. Mais je trouve qu'au fond, l'intertexte freudien, et notamment l'intertexte de l'au-delà du principe de plaisir, que je crois que tu ne cites pas, sauf erreur, peut-être que, en tout cas pas explicitement, voilà, m'a paru extrêmement... comment dire, massivement convocable, ou faire très nettement écho à un certain nombre de tes réflexions, et notamment ce que tu appelles les paradoxes du recommencement, ont beaucoup à voir avec ce que Freud, disons, met au jour dans l'au-delà du principe de plaisir, et notamment, mais dans un sens qui n'est pas du tout simplement anthropologique ou existentiel, lorsqu'il met en avant, notamment dans la compulsion de répétition, lorsqu'il voit une forme de compulsion de répétition qui est au fond qui intéresse la vie biologique, hein, la vie cellulaire, hein, c'est dans le dernier tiers d'au-delà du principe du plaisir, où au fond pulsion de vie et pulsion de mort sont prises pratiquement dans un seul et même mouvement. La pulsion, c'est cette boucle qui fait échapper à la mort. On pourrait dire, pour essayer de traduire dans tes termes, la possibilité d'un recommencement. La vie étant attirée inexorablement vers la non-vie. Et donc la pulsion, c'est ce qui fait boucle, littéralement, c'est le terme freudien, ce qui est prolongement. Possibilité d'une continuation même éphémère, et ce qui produit finalement la vie, hein, c'est que cette boucle se boucle, n'est-ce pas, et produit un effet de continuité tel que ça produit un effet de durée, et donc finalement ce que Freud appelle la vie. Et je suis très fascinée par le fait que, en te lisant, on peut être renvoyé à cet intertexte où le recommencement, c'est à la fois l'élan, le conatus dont tu as parlé, ce qu'on pourrait appeler aussi dans la psychanalyse lacanienne, je ne sais pas moi, le désir, quelque chose qui anime le sujet vraiment depuis les profondeurs, et en même temps que ce désir est pris toujours déjà dans une logique qui n'est pas moins mortifère, puisque le recommencement fraye tout de même, même si on veut s'en débarrasser, avec la logique de la répétition. Et que cette logique de la répétition, en tout cas compulsion de répétition chez Freud, et il me semble aussi peut-être chez toi, elle lie inséparablement, au fond, ce qui porte la vie et ce qui apporte la mort. Le mortifère, finalement, au plus vivace. Et je me demande si, voilà, je ne sais pas si cet intertexte, tu l'as délibérément évité ou bien, ou s'il t'a fait peut-être travailler ou peut-être pas d'ailleurs, mais en tout cas, j'étais frappée par finalement le caractère très freudien de ta thèse. Et voilà, donc peut-être je... Oui, une toute dernière chose qui m'a beaucoup aussi, je dois dire, touchée, puisque tu reprends la phrase de Browning à propos de Wordsworth, je crois, où Browning se lamente que Wordsworth soit devenu le conservateur réactionnaire qu'il est devenu, alors qu'il a eu des premiers temps révolutionnaires, hein, notamment la préface aux ballades lyriques, et où il a cette phrase qui sonne comme un vers, hein, « Jamais ne reviendra le matin heureux et confiant ». Et je me disais... que ce matin heureux et confiant, et tu fais beaucoup de choses de cette aube dont tu as reparlé, de cette, comment dire, expérience matinale, cette, comme possibilité rêvée, comme trope du recommencement. Et je pensais, à cette phrase de Quignard, hein, dans tous les matins du monde. Je ne sais pas si tu te souviens de ce... Alors, je pensais que tu taisait aussi délibérément, puisque ça a été aussi un peu repris, je pense, par Derrida, mais Tous les matins du monde, ce fameux film donc, qui est tiré du livre, ce fameux film de Corneau qui est tiré du livre de Quignard sur la vie de Marin Marais. Tu vois le film, violiste des 16e et 17e siècles, donc qui se remémore ses souvenirs de jeunesse et en particulier son apprentissage de la viole de gambe auprès de son maître, Monsieur de Sainte-Colombe. Et ce titre, Tous les matins du monde, en fait, et c'est notamment Derrida qui en fait l'usage, enfin qui y revient, qui le glose, c'est un titre tronqué, puisque la véritable citation de Quignard, du livre de Quignard, c'est Tous les matins du monde sont sans retour. Voilà, et j'ai pensé, alors je pensais que tu pensais au matin, non. Et voilà, et je me suis dit ça, je me suis dit que ton livre, que c'était une manière au fond de, je sais pas comment dire, de corréla objectif, hein, de formuler de manière un peu comme ça, sublimatoire, ce que ta thèse, il me semble que, oui, au fond, recommencer, c'est savoir aussi que tous les matins du monde sont sans retour. Voilà. Pardon, c'était un peu brouillon, mais j'essayais de faire.
Non, pas du tout. C'est passionnant. Et puis, c'est vachement bien quand on trouve dans un texte des choses qui ne s'y trouvent pas. D'une certaine manière, c'est une condition. C'est l'idée que le texte n'est pas finalement si raté que ça. C'est formidable, tous les matins du monde sont sans retour. Je ne connaissais pas cette...
Alors Derrida insiste sur le fait que justement on tronque la fin, puisque le titre c'est tous les matins du monde, on ne sait pas.
D'accord, oui, donc évidemment, on l'enlève. Moi ce qui m'intéresse, alors pour reparler un instant de cette phrase et de Russell et de Lewis Carroll, ce qui m'intéressait donc pour remettre les choses en contexte, c'est que cette phrase, ce morceau de poésie, il est cité par Whitehead. Russell dit que c'est ce que Whitehead lui a dit pour le consoler. Et pour lui dire que l'échec de la grande entreprise logiciste, qui était quand même le dernier grand moment de fondation universelle de la raison humaine au début du XXe siècle, cet échec piteux n'était pas justement la fin du monde. C'est pas la fin du monde, mais que quoi que l'on puisse faire, on ne pourrait plus croire comme auparavant que le matin serait heureux et confiant. Voilà. Quelque chose de l'élan initial, quelque chose de l'enthousiasme avec lequel tout un ensemble de logiciens à la fin du 19e siècle croient en la possibilité d'une fondation ultime de la raison, quelque chose de cet enthousiasme-là était perdu, il fallait s'en passer, il fallait faire autrement et recommencer. Ce qui me touche assez dans cette histoire, enfin l'une des choses que je trouve amusante dans cette histoire, c'est que c'est un vers poétique qui vient donner au logicien la force, sinon de surmonter sa déception face à l'échec du logicisme, du moins le courage de s'y recoller. De repriser, c'est la métaphore de la reprise que j'ai employée à ce moment-là. et que la poésie, dont on sait que les continuateurs de Russell, du cercle de Vienne jusqu'aux analytiques contemporains, qui tiennent la poésie à la littérature pour des choses finalement peu sérieuses, comme des manières d'échapper à la philosophie sérieuse, la poésie à ce moment-là semble bien avoir délivré, rendre possible l'énoncé d'une vérité qui manquait. Vérité dont je pense, et j'essaie de le montrer dans le livre, qu'elle n'est pas seulement émotionnelle, mais qu'elle est bien inscrite dans la grammaire de cette action problématique qu'est le recommencement. Donc, heureusement qu'il y a de la littérature et des littérateurs et des poètes pour venir au secours des logiciens. Ça n'est pas un art non plus. Si Bertrand Russell cite Lewis Carroll, qui était logicien, qui est l'auteur de Absolument. La logique sans peine que les logiciens connaissent bien hein, au début du XXe siècle, et qui finalement, et Russell et Lewis Carroll, pose des problèmes qui par ailleurs m'intéressent beaucoup, qui pourrait énoncer comme quelle est la part de l'humour dans la logique, par exemple, c'est une question qui, parce que depuis tout à l'heure on parle de mélancolie, d'angoisse, c'est quand même un livre de temps en temps et de temps à autre. C'est aussi pour ça que j'ai fini par Beauvoir et Pécuchet. La question de l'humour a sa place. Quelle est la place de la littérature, de l'humour dans la logique, vis-à-vis de la logique en philosophie. Ceci sur Russell, Lewis Carroll et le Lièvre de Mars. Par ailleurs, j'ai décidé que je ne publierai plus aucun livre où il n'y ait pas, ne figure pas un titre ou un autre, un lièvre ou un lapin. Donc, c'est une règle que je me suis donnée et je suis heureux de l'avoir su. Seconde ou deuxième fois, ça c'est une question vraiment importante. Parce qu'effectivement, le livre se situe du côté de la deuxième fois et non pas de la seconde. Je crois que dans le moment où j'écrivais ce petit livre, François Julien sortait un livre qui s'appelait La Seconde Vie, qui est un beau livre, par ailleurs, qui est aussi assez habité, enfin, qui tranche sur d'autres publications récentes de François Julien. Dont j'ai retardé la lecture me disant que ça allait m'embrouiller, que j'ai lu après, et dont je trouve qu'il est à certains égards fort proche de ce que j'ai tâché d'approcher, et à d'autres égards non, parce qu'effectivement, la question de François Julien, c'est qu'est-ce que c'est que cette nouvelle vie qui survient après la première, et dont on sait qu'elle sera la dernière. Voilà. La seconde vie, c'est vraiment cette semi-vie, sachant que comme disait je ne sais plus qui, on a fait le plus dur. Je ne sais plus qui disait ça, c'était pour un anniversaire de mariage, c'était vraiment très amusant. Ma question n'est pas celle de la deuxième fois, c'est celle de la seconde fois, c'est celle de la deuxième fois, étant entendu que d'autres fois pourront suivre, dire relancer la possibilité d'ouvrir d'autres fois. Bon. Avec ce que cette... ambition ou ce que cette aspiration peut avoir de compliqué, parce que si c'est la deuxième fois, la deuxième fois n'a pas la noblesse de la seconde.
Oui, absolument.
La deuxième fois, c'est si on dit c'est la deuxième fois que tu essayes, ça veut dire mon gars, il y en a une première, puis il y en aura peut-être une troisième, une quatrième, une cinquième. Ce qui renvoie à ce que j'ai appelé l'inquiétude du débutant dans le livre, qui habite Cesare Pavese, qui est vraiment hanté par cette idée que à chaque fois qu'il croit que c'est la bonne, que cette fois-ci c'est la bonne, il se souvient que la dernière fois il l'a déjà pensé. Et ça vient affaisser, effondrer son élan de manière absolument implacable. Donc, le livre se situe plutôt du côté de la deuxième fois, ce qui est une manière de contourner ou de faire un sort à cette figure de la mélancolie. C'est vrai que c'est une référence, ou disons une ambiance que le livre essaie de tenir aussi à distance que possible. Il y a un passage où j'explique que j'en ai un tout petit peu marre de cette idée qu'il y a une tradition de la mélancolie de gauche, par exemple. Mmh. Enfin, le livre de Traverso est très beau là-dessus. Mais cette idée que il faudrait être que la politique sera benjaminienne ou ne sera pas. D'une certaine façon, il m'arrive de penser que ça ne nous aide pas et qu'il faudrait s'en sortir. Pour autant, je me reconnais tout à fait dans une familiarité ou une proximité avec cette pensée un peu accablée, au fond, d'une tradition progressiste qui se sait quand même plutôt du côté des vaincus, plutôt du côté d'une mémoire et d'une mémoire des défaites. La question de la défaite m'intéresse. Bref, je suis le client idéal pour la mélancolie politique et je tâche de m'y refuser, ou en tout cas de la retarder, au sens de la boucle dont tu rappelais que c'était la figure que dessine la pulsion chez Freud. Alors, tiens, un mot là-dessus, un mot sur Freud et le au-delà du principe de plaisir. Là aussi, c'est une référence que, pour le coup, j'avais en tête et un peu plus qu'en tête, que j'ai travaillé pour écrire le livre et que j'ai laissé de côté parce que le livre l'idée du livre, c'était d'éviter de s'engager dans le commentaire précisément. Et je ne voyais pas comment il était possible de faire de ce texte de Freud autre chose qu'un commentaire. Or, la stratégie d'écriture de ce livre n'est pas une stratégie du commentaire. Mais c'est vrai que Freud est présent à différents égards, que la question du sujet supposé savoir m'intéresse aussi de la même façon. Et que cette idée que la répétition est à la fois ce qui nous permet d'échapper à la mort, ce qui est travaillé ou marqué, qui reconduit à la mort, et ce qui, correctement dérivé ou déjoué ou rejoué, permet le transfert. Parce que c'est aussi la répétition, la matrice possible de la cure. Cette idée-là, cette triple idée, cette triple valence de la répétition m'intéresse beaucoup. Donc, en lieu et place de Freud, je suis allé chercher Bouvard et Pécuchet, une manière de faire. J'ai terminé par Bouvard et Pécuchet. Au début, je voulais les mettre au début, puis finalement, ils se sont trouvés à la fin. Parce que c'est un signe d'espoir. Parce que ce que tu as appelé, je garde cette formule, l'encyclopédisme écervelé de Bouvard et Pécuchet, et fait partie de l'autre rôle que je reconnais, l'autre intérêt que je trouve à la littérature dans mon travail d'écriture philosophique, qui est non pas de proposer des formes de diagnostic, de s'expliquer avec les peurs, comme je disais tout à l'heure, mais plutôt d'inventer des figures enthousiasmantes, entraînantes, des modèles possibles, quelques baroques ou aberrants qu'ils puissent être. Le lièvre de Mars qui dit « j'en ai assez, changeons de sujet » est un modèle possible. Bouvard et Pécuchet, leur manière de s'en remettre, quoi qu'il arrive, quelques catastrophes qu'ils puissent traverser, ils disent « allez, c'est parti, on continue ». D'une manière tout à fait enthousiasmante, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je m'intéresse au cinéma ou aux séries qui font des choses comme ça. Alors, j'ai évité de parler d'images dans ce livre parce que j'ai considéré que j'avais beaucoup parlé d'images dans les livres précédents, parce que ça m'intéressait et non pas pour faire un sort à la pop culture, mon objet n'était pas celui-là, mais la question des images et des modèles que les images proposent est une question qui m'intéresse. Et Bouvard et Pécuchet sont présents à ce titre-là dans le livre, parce que ça renvoie un peu à la question que Claire posait sur la continuation. Évidemment, il y a la question du recommencement, c'est la question des modèles. La question des modèles, de modèles qui ne soient pas écrasants, mais de modèles qui soient entraînants, qui donnent une forme d'élan à l'action. Voilà. C'est aussi, je terminerai par là, c'est aussi de ce côté-là que le livre communique avec une série de textes parus récemment. Je pense au texte d'Alexandre Geffen sur la littérature comme soin. L'idée que la littérature est une réparation. Le problème de... Moi, c'est une problématique qui m'intéresse beaucoup. Le tout étant d'éviter une forme d'escapisme ou de mièvrerie. Et c'est pour ça que, dans le livre, alterne des figures plutôt drôles et joyeuses et heureuses, comme celle de Lewis Carroll ou celle de Bouvard et Pécuchet, et des figures plus sombres qui me permettent de me protéger de la mièvre, qui est l'une de mes tentations. Voilà.
Merci beaucoup, Mathieu. Est-ce que je me permets de donner la parole à la salle? Est-ce que vous avez des questions, des demandes particulières, des protestations? Tout est permis.
Oui. Sur l'optimisme ou le plaisir de la répétition, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi qui relève simplement de l'éthique de l'intellectuel et qui consiste à dire qu'on ne peut pas s'en... Dans ce cadre-là, il n'y a pas de plaisir à la répétition. Au contraire, on doit s'efforcer systématiquement de recommencer, penser autrement, etc.
Oui, c'est sûr. Oui, c'est vrai. Il y a même une... Il y a une forme de d'obligation de... Et vous citez la phrase, vous citez le mot de Foucault, penser autrement. Penser autrement. Et c'est sans doute un travers, ou en tout cas, il faudrait interroger cette obligation d'avoir toujours à penser autrement. Peut-être que penser la même chose, ou continuer de penser la même chose, serait aussi une ambition tout à fait louable et défendable. Penser ce qui a déjà été pensé, ce qui a été quand même beaucoup une tradition, enfin une des manières pour les intellectuels de se définir, au fond, de produire un commentaire heureux. La philosophie a fonctionné des siècles de cette façon-là. Vous avez raison, et ce que Isabelle disait de la place de la création et de l'écriture a certainement à voir avec cela aussi. C'est vrai que aujourd'hui, on a du mal à concevoir une ambition qui ne soit pas une ambition novatrice ou une ambition intellectuelle qui ne soit pas l'ambition de trouver du nouveau, une grande ambition moderne. Et pour autant, c'est plus compliqué qu'avant. C'est plus compliqué qu'avant parce que précisément... la modernité s'est retirée comme la mer ou comme le sol sous les pas du marcheur, cette ambition de nouveauté, d'innovation, enfin, l'ambition de nouveauté, elle a glissé du côté d'une injonction à l'innovation, à être innovant, qui n'est pas forcément toujours forcément ragoûtante, et qu'on est un peu embêté avec ça. Et doit-on encore aujourd'hui, pour être un intellectuel, être un créateur? Quelles autres postures seraient possibles? À quelle philosophie de l'histoire peut-on s'adosser pour affirmer tout de go que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est créer des choses nouvelles? Là, il y a un paquet de questions qui est vraiment intéressant. J'essaie un peu d'y travailler en ce moment, dans un travail en cours sur la question de l'histoire et des modèles contemporains du rapport à l'avenir. Enfin, en tout cas, j'entends dans votre question un point qui pourrait tout à fait se brancher sur cette interrogation-là, c'est-à-dire, ce ne sont pas des choses très originales, hein, mais dans une époque marquée par le présentisme, comme dirait Hartog, par la post-postmodernité, puisque tu citais Lyotard, en fond. Quel type de relation à l'avenir est-il possible, quel type d'ambition pour l'avenir est-il possible d'entretenir? Ça, c'est une question collective, à l'évidence. C'est une question aussi sur l'éthique de l'intellectuel. Ça va être très intéressant. J'ai pas de réponse, mais c'est certainement un impensé de ce livre qui ferait bien devenir un impensé dans un autre.
Voilà. Oui, monsieur. Et
supposons qu'on inscrive au cœur de sa seconde vie le souci de soi. Est-ce qu'il y aurait transformation ou recommencement?
Je sais pas comment vous répondre. Bon, alors, il est sûr que dans l'ambition de ce que j'ai appelé recommencer, s'inscrit, prend place, une forme de réflexivité. Le re, ce n'est pas seulement le re de la répétition, mais le re de la réflexion. C'est-à-dire la capacité de faire retour sur soi-même. Donc au fond, l'ambition de recommencer, c'est aussi une ambition de recommencer en étant un peu plus conscient, un peu plus attentif à ce que l'on fait ou à ce que l'on se fait en recommençant. On fait un peu plus attention à soi-même. Donc cette dimension du soi, elle est absolument présente, et comme je l'expliquais en commençant, ce livre est une sorte d'étrange codicille à la lecture que j'ai fait des derniers livres de Foucault, parmi lesquels Le souci de soi, où Foucault s'interroge sur les difficultés, les dilemmes, les formes que prend le souci de soi-même, dès lors que ce souci de soi-même, on ne peut pas le comprendre simplement comme un égoïsme, dès lors qu'il n'est pas indépendant de l'inscription dans un certain moment de la culture et de l'histoire, ce genre de choses. Donc, première chose, dans tout recommencement, au sens que j'ai donné, au sens que j'ai essayé d'interroger dans ce livre, il y a une forme de réflexivité, donc de souci de soi. Pour autant, ce souci de soi, ça aussi c'est une leçon de Foucault, c'est un souci qui n'est pas exempt de s'exposer à autre chose que soi. Et on retrouve cette interrogation pour l'événement, ce choyer l'événement de Lyotard, c'est-à-dire que le souci de soi, ce serait plutôt se mettre dans des conditions telles que l'on soit capable de devenir un peu plus poreux, un peu plus concerné, un peu plus traversé, correctement traversé par les choses qui arrivent autour de soi. Et troisièmement, bien entendu, pour autant, ça renvoie à la question que posait Isabelle, cette manière pour soi-même de se laisser traverser par ce qui n'est pas soi, c'est aussi accepter ou faire un sort à la finitude, faire un sort au fait que le soi, c'est un soi précaire, que c'est un soi exposé, c'est un soi fragile. C'est l'un des derniers, c'est la dernière phrase de Foucault dans l'une de ses dernières interviews. On lui dit « Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?» Il dit « Je vais d'abord m'occuper de moi. » Bon, il est mort un mois plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire que s'occuper de soi au bord ou dans la conscience de sa disparition prochaine? Mais là, pour le coup, on retrouve des questions philosophiques qui sont des questions de toujours, qui sont nullement des questions originales. C'est une question centrale pour la philosophie.
Merci beaucoup.
Merci.
Est-ce que vous avez d'autres questions? J'aurais dû le dire en débutant, mais je me permets d'excuser l'absence de Dorian Astor, qui aurait voulu vraiment être parmi nous, et c'est un empêchement personnel majeur qui l'en a empêché, mais il y aura occasions de rencontres. Je vous remercie beaucoup. Merci Mathieu, Isabelle, merci au public. Merci à la bibliothèque qui nous accueille. Et voilà, j'espère qu'il y aura d'autres samedis du livre dans ce lieu.
Merci d'avoir affronté le froid, oui. Les gilets, la police. Merci. Sincèrement, merci.